Vous écoutez RFI à Paris et Varsovie, les 8h-6h en temps universel. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ça s'est joué dans un mouchoir de poche en Pologne.
Mais c'est finalement le candidat nationaliste Karol Nawrocki qui remporte l'élection présidentielle. 50,89% des suffrages. Les résultats sont brillants, dignes de livres d'histoire, se félicite le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'affirme. Jamais son pays n'avait mené d'opération à une si longue portée. C'était hier une attaque coordonnée de drones visant plusieurs bases militaires en Russie. On y revient dans ce journal. On revient sur cette nouvelle distribution d'aide humanitaire qui a viré au bain de sang hier à Gaza, sur la visite d'Ousmane Sonko en Guinée. On est aussi à Paris avec le PSG de retour à la maison avec la Coupe des Champions. Les supporters ne pouvaient pas manquer ça. Ils étaient très nombreux hier pour acclamer les joueurs dans la capitale. Et puis on terminera avec de la musique Gnawa au féminin.
La Pologne d'abord, les Polonais d'abord, c'était le slogan de Karol Nawrocki et il a fonctionné.
Le nationaliste remporte le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats officiels publiés par la commission électorale, 50,89% des voix, un écart très faible, c'était attendu face au maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui avait pourtant lui aussi revendiqué la victoire hier soir. On sera en direct de Varsovie avec notre correspondant Adrien Sarlat dans le journal de 7h en temps universel. Karol Nawrocki a notamment fait campagne en promettant certes le maintien du soutien polonais à l'Ukraine, mais il s'oppose à l'adhésion de Kiev à l'OTAN et n'est pas favorable non plus aux aides accordées aux réfugiés ukrainiens.
L'Ukraine qui se sera préparée pendant de longs mois pour mener cette attaque spectaculaire hier.
Une attaque sans précédent revendiquée par les services de sécurité. La cible, l'aviation militaire russe frappée simultanément par des drones sur plusieurs bases en Russie, parfois à des milliers de kilomètres du front. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Gaëtan.
Spécialiste défense de RFI, le nom de cette opération d'une grande complexité, toile d'araignée.
Oui, et les drones utilisés par les Ukrainiens pour aller détruire sur les tarmacs des bombardiers stratégiques sont de simples drones First Personal Viewer dirigés avec un masque en portant de petites charges explosives comme on en retrouve partout sur le front. L'exploit repose sur la capacité à avoir dissimulé si loin en Russie ces drones d'attaque. Les forces ukrainiennes indiquent qu'ils ont été cachés dans des structures en bois placés sur des camions. Leur toit aurait été ouvert à distance pour permettre aux drones FPV de s'envoler vers leur cible à proximité immédiate des aérodromes. Des agents ont donc également été infiltrés pour les piloter. Un stratagème qui a permis de frapper loin deux des bases que l'Ukraine dit avoir touchées. Olenia et Belaya sont respectivement situées à 2000 km et 4000 km du front. Au total, Gaëtan, 41 avions auraient été touchés.
Et quelles conséquences pour la Russie, Franck ?
Première conséquence, Moscou aurait perdu des bombardiers Tu-95, Tu-22 et des appareils de détection et de commandement A-50, des appareils éminemment stratégiques, des ressources limitées, ces avions ne sont plus construits. Cela se traduit donc par un affaiblissement important des capacités aériennes russes. Deuxième observation, plus symbolique, c'est un aveu de faiblesse pour la défense anti-aérienne, incapable de protéger les bases les plus précieuses au cœur du territoire. Enfin, Gaëtan, cette opération longue distance marquera un point de bascule des opérations spéciales. Désormais, l'arme des commandos infiltrés dans la profondeur, eh bien, c'est aussi le drone d'attaque.
Ah, merci Franck Alexandre, spécialiste défense de RFI. Et la Russie annonce justement ce matin avoir abattu dans la nuit quelques 162 nouveaux drones ukrainiens dans plusieurs régions russes, celles de Koursk notamment, mais aussi celles de Belgorod.
Et c'est dans ce contexte que des négociateurs russes et ukrainiens se retrouvent ce lundi en Turquie.
À Istanbul, comme le 16 mai dernier, avec le même objectif, celui d'avancer vers un accord de paix avec la même délégation russe menée par un conseiller de second plan, Vladimir Medinsky, et possiblement avec le même résultat, c'est-à-dire pas grand-chose à Nandlower.
La dernière réunion d'Istanbul n'avait pas été très fructueuse. Elle n'avait abouti qu'à un échange de prisonniers, certes important, mais les Ukrainiens étaient repartis sans un cessez-le-feu. La délégation russe avait refusé de négocier la trêve complète et inconditionnelle à laquelle l'Ukraine se dit prête. Elle avait demandé aux négociateurs ukrainiens de lui présenter par écrit leur vision d'un tel cessez-le-feu. Les chances d'y parvenir au cours de cette deuxième rencontre sont infimes. Le président russe Vladimir Poutine affirme d'ailleurs qu'une cessation des combats n'est possible qu'après des négociations sur ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre, référence à une série de demandes maximalistes du Kremlin. À Istanbul, ce lundi, la Russie est censée présenter un mémorandum qui détaille ses conditions pour un accord de paix. Son refus de communiquer cette note avant la rencontre est le signe pour Kiev que Moscou n'a pas l'intention de faire progresser les pourparlers et s'obstine à lui soumettre des exigences inacceptables. Après la dernière réunion d'Istanbul, l'Ukraine avait notamment accusé la Russie de lui demander de céder de nouveaux territoires pour instaurer un cessez-le-feu. Anne Andler, Ankara, RFI.
C'est un piège mortel, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Déshumanisant, dangereux et sévèrement inefficace pour Médecins sans frontières, le système de distribution d'aide humanitaire à Gaza, vivement critiqué. Après plus de 2 mois de blocus israélien total, cette aide entre à nouveau dans l'enclave, mais au compte-gouttes. Et ça donne lieu à des scènes de chaos. 31 personnes ont ainsi perdu la vie hier, selon la défense civile locale, ciblée par des tirs israéliens lors de l'une de ces distributions. Opérée par la Gaza Humanitarian Foundation, une nouvelle organisation gérée par les États-Unis. L'ONG nie tout incident. Pas de mort, dit l'armée israélienne. Il y a pourtant des témoignages accablants à Blajounaïdi.
Par milliers, ils s'étaient rendus à l'aube à Rafah, certains venus du centre de Gaza à pied. Par dizaines, ils sont repartis sur des brancards de fortune ou à bord d'ambulances dans les quelques structures de santé environnantes, notamment à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Le médecin australien Ahmed Abu Swaid s'est vite retrouvé débordé, comme il explique à un confrère palestinien.
Ce sont tous des victimes civiles. On leur a dit d'aller dans un centre pour obtenir à manger et ils se sont retrouvés avec des blessures par balle ou par éclat d'obus. La plupart sont dans un état critique. Certains étaient déjà morts en arrivant à cause de blessures par balle délibérées à la tête ou au thorax.
Alors que l'ONG mise en place grâce au soutien des États-Unis pour prendre en main la distribution de l'aide dément tout incident, les médecins étrangers déplorent le blocus qui les empêche de répondre à la crise. La chirurgienne britannique Victoria Rose lors d'une conférence de presse devant l'hôpital Nasser.
Ici, comme vous le savez, la situation est vraiment critique. L'aide médicale manque à l'hôpital depuis le 2 mars, donc nous n'avons pas le matériel dont nous avons besoin pour traiter ces blessés.
Et les perspectives de voir l'aide affluer comme avant le 2 mars dernier sont minces aujourd'hui, Washington ayant rejeté samedi la position du Hamas sur les termes du cessez-le-feu.
Ablajounaïdi et Israël dénoncent un acte antisémite. 6 blessés hier aux États-Unis dans le Colorado, ça s'est passé pendant une manifestation pour la libération des otages israéliens retenus à Gaza. Un homme a été arrêté, il était armé d'engins incendiaires. Le FBI parle d'une attaque terroriste. C'est une nouvelle victoire diplomatique de poids pour le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Le Royaume-Uni apporte son soutien au plan d'autonomie marocain. L'annonce a été faite hier par le ministre britannique des Affaires étrangères en visite à Rabat. Un plan qu'il a qualifié de, je cite, « base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend ». Londres ajoute donc son nom à la liste des pays qui appuient désormais la souveraineté marocaine sur ce territoire. Les États-Unis l'ont fait en 2020, suivi en 2022 par l'Espagne et l'Allemagne. Et puis la France l'an dernier, l'Algérie qui soutient les indépendantistes du Front Polisario dit regretter ce changement de position britannique.
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa tournée régionale.
Entamé en Côte d'Ivoire qu'il a quitté hier pour se rendre à Conakry. Il doit notamment rencontrer dans la matinée son homologue guinéen Baouri avant un tête-à-tête cet après-midi avec le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Avec cette visite et ces rencontres aussi, Ousmane Sonko confirme sa volonté d'entretenir des relations avec tous les pays de la région, y compris les régimes militaires. Correspondance à Conakry de Tanguy Billan.
Ousmane Sonko, accompagné d'une délégation comprenant notamment des cadres des ministères de la pêche et des infrastructures, pourrait chercher à faire bénéficier à des entreprises sénégalaises de la forte croissance de l'économie guinéenne, portée par le dynamisme de son secteur minier et en particulier par le développement du méga-projet de Simandou. L'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants dans les deux pays, une nouvelle génération, relance une relation en panne depuis une dizaine d'années. Sous les présidents Alpha Condé et Macky Sall, Conakry et Dakar ont connu une décennie de tensions. Le rapprochement s'était d'ailleurs amorcé dès l'an dernier. Mamadi Doumbouya s'était rendu à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Sur le plan des droits humains, des ONG sénégalaises, Africa Jom, Africtiviste et Tournons la Page appellent Ousmane Sonko à s'exprimer sur le sort des activistes Fonike Menge et Bill Loba et du journaliste Habib Marwan Camara, tous disparus depuis plusieurs mois. Plusieurs observateurs estiment cependant que le Premier ministre sénégalais s'en tiendra à la ligne qu'il a tracée. Développer les relations bilatérales, ne pas commenter les questions de politique intérieure de ses partenaires. Tanguy Bihan, Conakry, RFI.
C'est un succès total, se félicite la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Une lecture très personnelle quand même au regard du taux de participation. À peu près 13% seulement des électeurs aux urnes hier pour élire tous les juges du pays. C'est une première mondiale au scrutin universel. La présidente elle-même le voulait, disant lutter ainsi contre la corruption et les privilèges du personnel judiciaire. En football, l'exploit méritait bien une fête et les footballeurs du Paris Saint-Germain ont été servis hier de retour dans la capitale au lendemain de leur premier sacre en Ligue des Champions. Alors une parade d'abord sur les Champs-Élysées avant d'être reçus par le président de la République et puis un final en apothéose au Parc des Princes, leur stade à eux où ils étaient attendus de pied ferme, Baptiste Leduc y était.
J'ai attendu toute ma vie pour ça.
Le parc, c'est la maison. Je peux dire que j'ai jamais vu une ambiance comme ça dans ma vie. Et j'en reverrai plus, je pense.
J'y crois toujours pas, j'ai l'impression d'être dans un rêve.
Des champions acclamés, des supporters aux anges, le Paris Saint-Germain a réussi son after-party au Parc des Princes. Entre les mini-concerts des plus grands artistes de la capitale et le défilé des joueurs, difficile de ne retenir qu'un moment. Erwan et Mohamed ne sont pas d'accord.
En tant que banlieusard, nous, c'est l'arrivée de Niska. Niska avec son mythique. Moi, tu dis Charo, c'est ça qui m'a le plus marqué.
Moi, pour ma part, ça va être l'arrivée de Marquinhos avec Nasser, avec le trophée. Dinguerie, ça y est, on l'avait enfin, elle est devant nous. Mais la musée, limite. Avec Marquinhos, je voulais pleurer avec lui.
Un dernier tour d'honneur et la fête pouvait se prolonger aux abords du stade. Stéphane a laissé sa voix en Allemagne, mais ce fut le meilleur week-end de sa vie.
Je reviens de Munich. Je suis parti avec mon père. 45 ans d'abonnement. C'est inoubliable.
En guise de clôture, le dernier concert de la soirée, celui des klaxons et des moteurs vrombissants sur le périphérique. Le PSG est champion d'Europe de football. Son stade et sa ville l'ont célébré comme il se doit.
Un reportage de Baptiste Leduc.
Le PSG, grand vainqueur de la Ligue des champions de football, on y revient dans le journal des sports dans 3 minutes et dans Appel sur l'actualité avec Namoury Dosso à 10h10, hors de Paris. On termine en musique, Gaëtan, avec le collectif marocain féminin.
Asma, Hamzaoui, Ebnat, Timbuktu, presque 10 ans déjà qu'elles unissent leurs voix et leurs instruments pour bousculer les codes de la musique gnawa. Leur dernier album s'appelle Ebnat, vous l'avez écouté, José Marinho.
Asma Hamzaoui et Bnat Timbuktu est un collectif entièrement féminin, une révolution dans le milieu de la musique gnawa, historiquement réservée aux hommes au Maroc. À la tête de ce groupe, Asma Hamzaoui, première femme marocaine à jouer du guembri, un petit luth à trois cordes, elle apporte une touche féministe et engagée à cette musique ancestrale.
J'ai grandi dans un entourage gnawi. Mon père est un grand mellem dans cette musique. Il me donne l'idée de prendre un groupe de femmes parce qu'il y a des gens qui jugent dans la musique gnawa. Pourquoi les femmes dans cette musique? J'ai cassé ce tabou parce que je suis la première relève femme. C'est pas facile, mais je suis féministe parce que c'est obligatoire pour dire les femmes, les fortes. Et je suis fière de partager cette musique avec le monde.
Asma Hamzaoui et Bnat Timbuktu allient performance artistique et remise en cause des normes de genre. Cette démarche originale leur vaut une reconnaissance internationale.
Un sujet signé José Marinho.
Merci Gaëtan Plenet. Et tout de suite, le journal des sports, Antoine Grenier, le premier jour du reste de son histoire après une fête ininterrompue depuis samedi soir. Ce matin, le Paris Saint-Germain se réveille en pensant à l'après.
Les joueurs et le staff ont communié avec leurs supporters, présenté le trophée de la Ligue des Champions après la finale remportée face à l'Inter Milan 5-0. Reçus à l'Elysée, les joueurs vont se tourner vers leur sélection pour la fenêtre internationale et pour Paris qui courait après la Ligue des Champions depuis tant d'années. La question c'est, et maintenant? Et réponse du capitaine Marquinhos, pour qui c'est clair, l'équipe ne compte pas s'arrêter là.
C'était un projet et je pense que le projet ne s'arrête pas là. On avait toujours dit que ça a été un objectif, mais c'était pas une obsession, ce trophée. Et voilà, aujourd'hui, on a réussi, on est tous heureux, on est libéré d'énergie. Et il faut continuer. Moi, c'est ça qui fait le foot, c'est ça qui fait le sport, c'est ça qui... Et c'est comme ça, des jours de gloire et des jours difficiles. Et pour les jours difficiles, il faut serrer les dents. avec notre famille, nos supporters, et on les passe ensemble. Les Jeux des Gloires, on est là pour célébrer ensemble.
Marquinhos avec Amélie Beaucourt.
En rugby, Toulouse se remet en marche.
Le leader du top 14 renoue avec le succès après avoir largement dominé Lyon 43-3 pour l'avant-dernière journée de phase régulière. Bordeaux-Bègles, tout récent champion d'Europe, a lui cédé face à Toulon 27-10.
En tennis, Roland-Garros, les tenants du titre au rendez-vous des quarts de finale.
Chez les dames, il a fallu 2h30 à Iga Świątek pour battre la Kazakh Elena Rybakina 1-6-6-3-7-5. Chez les messieurs, Carlos Alcaraz a encore cédé un set, mais il sera lui aussi au rendez-vous après sa victoire contre l'Américain Ben Shelton.
Et suite aujourd'hui des huitièmes de finale à Roland-Garros.
Avec dans le tableau masculin le numéro 1 mondial Yannick Sinner en lice face au Russe Andrei Rublev. Une journée qui débutera avec les rencontres du tableau féminin à partir de 9h temps universel. Les confrontations Goff-Alexandrova et Andreeva Kazatkina. Un peu après vers 10h30 temps universel. Dernière chance française du tournoi. Loïse Boisson opposée à l'Américaine Jessica Pegula. 33e mondiale. Éclosion sur le tard pour Boisson, mais qui ne surprend pas l'ancienne numéro 1 française, bientôt retraitée, Caroline Garcia.
Ceux qui suivent vraiment le tennis féminin français savent les qualités qu'elle a et ce qui lui est arrivé l'année dernière. Entre les qualités physiques et les qualités tennistiques, je pense que c'est largement mérité. C'est cool de l'avoir ici et de voir avec Diane, avec Lara, et quand elles vont revenir et tout, elles vont faire une bonne équipe et ça va être cool pour la France. Et Boula est largement favorite sur le papier, sur le classement, sur l'expérience, sur... aussi, j'imagine, la fraîcheur physique et la fraîcheur mentale. Après, c'est le tennis, tout est possible. Après, forcément, Pegula est largement favorite, c'est sûr.
Caroline Garcia au micro d'Éric Mamrut.
Merci Antoine. Antoine Grenier pour l'Infosport. Aujourd'hui, l'économie sur RFI. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Avec vous, on se penche ce matin sur le secteur aérien à l'occasion du sommet annuel de l'Association internationale du transport aérien. Ça se passe en ce moment à New Delhi, en Inde. Et ce qu'on apprend ce matin, eh bien, c'est que les compagnies aériennes ont choisi de réviser leurs prévisions pour cette année 2025 en raison de ce qui est présenté comme des vents contraires pour l'économie mondiale. Et dans ces vents contraires, on peut entendre notamment la guerre commerciale lancée par Donald Trump.
Oui, car le secteur n'est pas épargné, bien au contraire, par les mesures prises par le président américain concernant les taxes douanières. Depuis début avril, les avions et les composants aéronautiques fabriqués hors des États-Unis sont imposés à hauteur de 10%. Alors concrètement, l'Européen Airbus affronte des surcoûts opérationnels lorsqu'il vend des avions aux compagnies américaines, mais Boeing, pour autant, n'est pas en reste. L'avionneur américain est dans la même situation puisqu'il subit des représailles tarifaires en Chine et en Europe.
Là, on parle de production et d'assemblage des avions, ce qui a des conséquences sur le transport aérien en tant que tel.
Exactement, parce que ces surcoûts, précisément, ce sont les compagnies aériennes qui les paient. Prenons l'exemple des américaines Delta ou United qui sont concernées. À cela, vous ajoutez des retards de livraison. Conséquence directe, la suspension de certaines liaisons, la diminution de la fréquence des vols, ce qui a un impact direct sur le chiffre d'affaires des compagnies.
Compagnies qui misent aussi sur un virage énergétique et donc écologique.
Avec des subventions américaines sur les carburants d'aviation durables, ce coup de pouce leur permettait d'acheter des avions moins polluants. Eh bien, Donald Trump a abandonné cette subvention. Cela prive le secteur d'un levier clé pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Les compagnies américaines risquent ainsi de perdre des milliards de dollars d'avantages concurrentiels liés à cet abandon. Autre élément qui plombe les comptes des transporteurs américains, l'effondrement des voyages en classe affaires. Précisément parce qu'en raison des tensions commerciales, le climat économique est peu propice aux affaires.
Et paradoxalement, le transport aérien, on le disait, est toujours plébiscité.
Ah, tout à fait. L'Inde, qui accueille justement le sommet de l'IATA, a doublé son nombre de passagers d'aéroports en 10 ans. On notera aussi une demande qui explose en Afrique et au Moyen-Orient avec une dynamique autour de 14%, contrairement à un timide plus 1,6% en Amérique du Nord. Le problème, Andréane, c'est que l'Amérique du Nord, ça représente un quart du marché mondial. Et puis le fret aérien rencontre lui aussi un très grand succès. La raison, et on y revient, c'est qu'il a été dopé par les anticipations de tensions douanières de Donald Trump.
Et donc, tous ces éléments, les compagnies aériennes du monde entier doivent les intégrer dans leur modèle économique.
Voilà, c'est ça. On assiste à un réajustement pour toutes les explications précédentes, les transporteurs subissent une compression de leurs revenus par siège et donc ils doivent absorber ces surcoûts tarifaires. Pourtant, et c'est intéressant, l'année 2025 devrait connaître une nouvelle fois des revenus records estimés à plus de 1000 milliards de dollars. Et paradoxalement, la marge des compagnies reste quant à elle stable, conséquence d'une augmentation des coûts. Illustration donc d'un changement de tendance pour un secteur qui pendant des années s'est focalisé sur la croissance des profits, désormais contraint de maîtriser ses dépenses.
Merci Stéphane Genest, RFI 8h20 à Paris. On passe à notre invité international. Dans nos studios et face à Arnaud Pontus ce matin, l'économiste et spécialiste des finances publiques, François Eckel, également président de l'association FIPECO, Finances publiques et économie. C'est à vous, messieurs.
Bonjour François Eckel.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. On va évidemment parler finances publiques et dettes avec vous, mais j'avais d'abord une petite question plus générale. Est-ce que la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions peut être une bonne nouvelle pour l'économie française ?
Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça aura des effets positifs sur la consommation et l'activité économique, mais il faut pas se faire d'illusions, il faut pas rêver. Ça ne va pas majorer significativement la croissance cette année et c'est pas comme ça qu'on va réduire le déficit public.
Bon, faut pas attendre de miracle de Marquinhos ou de Désiré Doué, c'est pas eux qui vont redresser les comptes publics de la France. Bon, la dette publique 3300 milliards d'euros, la France affiche le pire déficit de la zone euro, mais vendredi soir l'agence de notation américaine Standard & Poor's n'a pas dégradé la note souveraine de la France. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça n'est pas si grave ?
Si, c'est grave, mais en fait, jusqu'à présent, lorsque les agences de notation ont réduit leurs notes, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'effets sur les taux d'intérêt. Mais là, on arrive à un stade où, si par exemple, Standard & Poor's nous avait dégradé, on serait passé dans une autre catégorie. On serait passé de la catégorie double A à la catégorie simple A. Alors ça, c'est très technique, mais il faut avoir en tête que beaucoup de banques ou beaucoup de gestionnaires de portefeuille, pour des raisons réglementaires, ou pour satisfaire les besoins de leurs clients pour les gestionnaires de portefeuille, doivent avoir un certain pourcentage d'obligations d'État classées double A
bien
et
classé,
non simple A, bien classées. Et donc, il risquait d'y avoir des ventes. Et donc, ça peut avoir un effet quand même, là, cette fois, sur les taux d'intérêt. Donc, les agences de notation hésitent, à mon avis, et attendent, le bon moment, c'est-à-dire, en fait, plutôt le mauvais moment pour faire ça, c'est-à-dire un moment où il y a un épisode, par exemple, un changement de censure du gouvernement, qui justifierait cette décision qui pourrait quand même avoir des effets.
Donc
là,
ça
n'est qu'un répit. Là, il ne s'est rien passé au cours de ces deux derniers mois, donc ils n'avaient pas de raison de le faire.
L'agence attend de voir si le gouvernement va pouvoir tenir ses objectifs, en fait.
Exactement. Là, pour le moment, voilà, le gouvernement dit qu'il va essayer de trouver 40 milliards pour l'année prochaine. Il ne devait pas les trouver hier. Il a annoncé qu'il le dirait début juillet. Donc Standard & Poor's n'avait rien à se mettre sous la dent.
Il n'y avait pas de question immédiate. Voilà. Le Premier ministre a promis donc un plan de redressement des finances publiques pour le début du mois de juillet. Il va demander un effort à tous les Français, c'est l'expression qu'il a employée. Est-ce que vous y croyez cette fois ? Vous qui observez tout ça depuis le début des années 80 ?
Bon, je crois qu'il a la volonté de le faire, et son gouvernement aussi, le ministère de l'économie aussi. Je pense qu'ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, ils ont en face d'eux une assemblée nationale où je ne vois vraiment pas comment on pourrait trouver le minimum de consensus nécessaire pour voter des mesures significatives. Et donc, la loi de finances pour 2026 va être très très difficile à voter, et même si le gouvernement entend faire passer ces mesures en utilisant l'article 49.3, il risque quand même très fortement une motion de censure.
Oui, c'est chaque année plus grave. Chaque année, le déficit se creuse. À partir de quand ce ne sera vraiment plus possible de continuer à emprunter, de continuer comme ça ?
Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, contrairement à ce que dit mon ancienne maison, la Cour des comptes, quand elle dit « on est au pied du mur », je dis « ne dites pas ça ». D'ailleurs, quand j'y étais, je disais déjà à l'époque, il y a 10 ans, je dis « ne dites pas, on est au pied du mur, au bord du précipice ».
Nous sommes devant un mur, devant une falaise, dit François Bayrou. On n'y est pas encore, c'est ça ?
On ne sait pas à quelle distance est le mur ou la falaise. Donc, on peut encore emprunter, peut-être que ça va durer quelques années, peut-être que dans 6 mois, en effet, tout d'un coup, les marchés se mettront à avoir peur, à s'inquiéter, à faire monter les taux d'intérêt. Et ce jour-là, tout dépendra de ce que la Banque Centrale Européenne fera. Est-ce qu'elle nous aidera ? En principe, elle a les moyens, mais elle ne peut le faire qu'en contrepartie de mesures de redressement comme celles qu'elle a imposées aux pays du sud de l'Europe en 2011-2012.
Il est là le risque, François Eckhall, c'est que les marchés ne veuillent plus nous emprunter, nous prêter de l'argent à des taux intéressants, que la Banque Centrale Européenne s'en mêle et qu'on pousse la France à des réformes peut-être un peu brutales.
Exactement, oui, le risque il est là. De toute façon, donc c'est un problème de souveraineté parce que ça veut dire que notre avenir sera entre les mains de décisions qui seront prises à Francfort. Donc et même si la Banque Centrale Européenne finit quand même par nous aider, et donc il faut éviter. Le risque il est là, oui.
Le risque est là. Cette fois, le gouvernement fixe donc l'objectif de 40 milliards d'euros d'efforts. Est-ce que ça vous semble faisable?
Alors, faisable sur le papier, oui. Alors, d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça n'est que le début de l'effort. Pour simplement stabiliser la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut, faire en sorte qu'elle augmente pas plus vite que l'activité économique. Elle peut augmenter en euros, hein. Personne n'imagine qu'elle de la diminuer en euros. Il faudrait faire un effort de l'ordre de 120 milliards d'euros.
Ah oui.
C'est un chiffre approximatif,
donc
c'est
là,
100, 150.
Donc là, pour cette année, enfin pour l'année prochaine, ce serait qu'un tiers de l'effort.
Le début. Alors c'est normal, les 120 milliards d'euros, personne n'a dit qu'il fallait les faire sur
c'est
un
pas
an.
Faisable.
Mais on en est encore très loin.
Oui. Et que faut-il faire ? Tailler dans les dépenses ?
Alors, il y a un gros sujet d'abord qui est, est-ce qu'il faut plutôt augmenter les impôts ou faire des économies sur les dépenses? Moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même surtout faire des économies sur les dépenses parce que on a quand même, alors on est passé numéro 2 dans l'Union Européenne l'année dernière en matière de dépenses publiques. Les Finlandais nous ont rattrapés. On fait la course en tête de toute façon avec les Finlandais et les Danois, pour ce qui est du montant des dépenses publiques. Donc, on peut faire des économies sur les dépenses. Maintenant, je pense aussi qu'on n'évitera pas des hausses d'impôts. Il faut que
le gouvernement se refuse pour l'instant.
Moment,
il refuse,
le gouvernement, parce qu'une partie de la classe politique s'y refuse.
Oui. Donc, il y a l'équation politique qui, évidemment, est très importante, vous le disiez dès le début. Mais pour tailler dans les dépenses, est-ce qu'il faut y aller à la tronçonneuse comme Milei en Argentine ou Musk aux États-Unis, ou est-ce qu'il faut être plus fin, y aller, on va dire, tronçonneuse sécateur ou carrément la pince à épiler si on veut y aller très gentiment? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, alors la tronçonneuse certainement pas. D'ailleurs, enfin bon, je connais moins bien le cas argentin, mais aux États-Unis on voit qu'ils font des économies qui vont se retourner contre eux, enfin qui sont totalement absurdes. Donc certainement pas la tronçonneuse, pas non plus la pince à épiler, en effet. Alors, je dirais économiquement, tous les économistes vous diront, il faudrait faire ça en fonction d'évaluation des dépenses publiques, de leur efficacité, etc. Je ne peux que dire la même chose, mais je rajoute quand même que attention, parce que les évaluations de politique publique, ça prend du temps, ça demande des données, c'est jamais noir ou blanc, les conclusions sont toujours dans le gris.
Donc si on veut aller relativement vite,
il faut se décider, il faut aller un peu au-delà de ce que pas attendre d'avoir fait toutes les évaluations nécessaires.
Et alors, vous tapez où, François Eckhall, s'il faut taper quelque part en priorité?
Quand on veut faire un effort aussi colossal que 120 milliards d'euros, même si on en fait une partie par des hausses d'impôts, il faut regarder quelles sont les principales dépenses. Et là, le quart des dépenses publiques, c'est les retraites. Donc le sujet retraite est le sujet prioritaire. Après, un cinquième des dépenses publiques, c'est la santé. Les remboursements d'assurance maladie, deuxième sujet prioritaire. Ensuite, aussi 20% des dépenses publiques, c'est les dépenses des collectivités locales. Il y a aussi un problème du côté des collectivités locales. Ils veulent pas en entendre parler, les élus locaux ne veulent pas en entendre parler, mais il va bien falloir qu'ils contribuent eux aussi à cet effort.
Donc c'est là qu'il faut s'interroger. J'ai une dernière question et une réponse rapide si vous pouvez. Si on taille massivement dans les dépenses, comment on va activer nos priorités? On a entendu Emmanuel Macron nous dire qu'il fallait augmenter le budget de la défense, par exemple, qui est aujourd'hui de 50 milliards, le passer à 100 milliards. Comment on fait s'il faut en même temps
Ça veut dire mathématiquement que si l'effort nécessaire pour simplement stabiliser la dette c'est 120 milliards, si on rajoute 30 milliards, si on dit qu'il y a 30 milliards de plus sur le militaire par exemple, ça veut dire que sur les autres dépenses,
on trouve
150 milliards. C'est quasiment, l'équation commence à devenir insoluble, oui.
Merci François Eckhall d'être venu ce matin et bonne journée à vous.
Merci.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, Comment arrêter de fumer et pourquoi est-il important de se faire aider ?
Demain,
alimentation, sport, hydratation, on parle de la santé sans ordonnance.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Viva Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
au travail, votre supérieur n'y connaît rien. Que faire face à l'incompétence de son chef ?
Demain,
les bains publics disparaissent, mais pas partout. Quand l'eau courante ne va pas de soi, comment se laver en ville ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.